le document que nous allons vous présenter, qui a été réalisé par notre bureau de l'ORTF à Phnom Penh et par Paul Amar. Regardez.
Le commandant, qui lui a appris à tirer?
C'est moi.
Avez-vous des enfants?
J'ai des enfants.
Et vous n'auriez pas peur de le voir mourir devant vous, votre enfant?
Oh, mais c'est la patrie qui compte.
Émission Guerre et Paix ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de l'Indochine, de l'Algérie, de services politiques, de Cassavetes et même de Barbara avec Eric Zonka qui réalise Soldat Blanc, une fiction télé sur le parcours de deux soldats français en Indochine. Deux visions, obéissance et désertion. Benoît Lagane.
Oui, nouveau film pour le réalisateur de La Vie rêvée des anges, ou comment, après avoir été inspiré par Piala puis Cassavetes, Eric Zonka filme des soldats français sous l'influence de Terrence Malick.
19h30, le questionnaire du lundi de Manu Farine pour son invité qu'elle rencontre le week-end. Ce soir, ce sera la journaliste politique Vanessa Schneider. Et 19h35, plateau média avec Paul Amar qui signe Blessure, ou comment le journaliste revient sur son parcours en menant son enquête sur la montée de l'antisémitisme en France. Benoît Lagane.
Oui, l'occasion de revenir avec lui sur son passé de courage. Correspondant à Phnom Penh, Washington, avant de découvrir un monde médiatique français sous influence politique.
L'émission est en partenariat ce soir avec le magazine À nous Paris qui parie sur Michel Houellebecq en meilleur espoir masculin, on y croit. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le nouveau journal de la culture de Zoé Sfèze.
Libé Radio.
Bienvenue sur Libé Radio.
Libé Radio, la une.
Et Benjamin Lévesque, c'est donc un scoop en une de Libé.
C'est donc votre son du jour, Zoé Sfèze.
Et oui, alors la voix que vous entendez, c'est celle de Florent Chatin, ancien présentateur sur France Inter, vous en rappelez peut-être. Il officie maintenant chez Libération, et oui, car le quotidien s'est offert en juillet dernier un studio pour donner naissance à une radio, Radio Libé, qui n'est pour le moment disponible que sur le site. Mais le nouveau directeur opérationnel du journal annonce aujourd'hui qu'il est en discussion avec le CSA pour obtenir une fréquence nationale sur la future RNT, la radio numérique terrestre, et ce qui lui permettra d'être aussi disponible sur les box. On a du souci à se faire, Laurent.
Vendre ou ne pas vendre le livre de Valérie T. C'est la question qui divise les libraires depuis la parution jeudi de son livre « Merci pour le moment ». Face à la tornade médiatique qui entoure le livre de l'ancienne première dame, eh bien, certains libraires refusent de le vendre.
Alors oui, il faut d'abord rappeler le contexte dans lequel ce livre est sorti. Il a été publié jeudi par Les Arènes, maison d'édition indépendante, qu'il a fait imprimer dans le plus grand secret en Allemagne et qui n'a révélé l'existence de ce livre qu'au tout dernier moment. Alors on ne va pas revenir sur son contenu, les 100 dents, les humiliations que décrit Valérie Trierweiler. Le fait est que dans les médias et surtout, les ventes se sont complètement emballées et que face à ce déchaînement, un mouvement est né spontanément chez certains libraires, baptisé ironiquement « Non merci pour le moment ». Alors même si la loi le leur interdit, ils refusent de vendre ce livre et ils le font savoir par voie d'affichette sur leur devanture. Xavier Demarchi, qui dirige la librairie Le Contretemps à Paris, est de cela et il accuse notamment ce livre d'avoir tué la rentrée littéraire. Écoutez-le.
On a été pris en otage, on est en pleine rentrée littéraire, pendant 48 heures je n'ai fait que répondre à la demande incessante, frénétique autour de ce livre. Donc pendant 48 heures j'ai pas fait mon métier. Pendant 48 heures, cette rentrée qui a de très bons titres n'a pas du tout fonctionné. Donc je rappelle juste que la façon dont est sorti ce livre est absolument incroyable, il est presque unique dans l'histoire des sorties de livres puisque de manière mystérieuse on a été contacté. Attention, préparez-vous. Le jeudi matin, on n'a pas eu le livre. En tout cas, moi, je ne l'ai pas eu. Certains libraires en ont eu 10, la FNAC 30. Enfin, c'était lamentable, c'était n'importe quoi. Sur un livre en plus de ça, dans le fond, la majorité des gens s'accordent à dire qu'il n'y a rien dedans. C'est même pas une analyse politique. On est dans le fond du lit du couple Hollande-Trierweiler. Je ne vois vraiment pas ce que ça m'apporte, ce que ça apporte à mes lecteurs.
Mais certains libraires ne sont pas du tout d'accord avec cette prise de position. Pour eux, le livre « Merci pour le moment » est une véritable manne, bien
Alors
sûr.
Oui, effectivement, Mathieu Colomb dirige une librairie de 750 mètres carrés à Aix-en-Provence, l'une des plus grandes de la ville. Il a déjà vendu les 100 exemplaires qu'il avait de ce livre et il attend d'être livré très impatiemment. Pour lui, ce livre n'empiète pas du tout sur la rentrée littéraire. Même, c'est une aubaine.
Dans les gens qui achètent ce livre-là, il y a vraiment deux catégories de personnes, c'est tranché. Donc il y a soit les clients habituels qui cèdent aux sirènes de la mode et qui prennent ça, ce qui ne les empêche pas de prendre d'autres livres au passage. Et puis il y a donc les autres qui sont pas clients en librairie et qui, de toute façon, s'il n'y avait pas eu ce livre-là, ne seraient pas rentrés dans la librairie. Alors, je trouve ça dommage de passer à côté d'une occasion en or de faire rentrer des devises qui permettront de financer des choses qu'on vend beaucoup moins facilement que le livre de, justement, Valérie Trierweiler. Puis ça sauve un de mes rayons. De toute façon, donc, pour moi, c'est même plutôt une bonne chose. Oui. C'est un c'est un moteur économique.
Et en réalité, ce livre fait symptôme car il cristallise tous les problèmes auxquels font face les métiers du livre.
Bah oui, puisqu'au-delà des libraires, le débat concerne aussi les éditeurs et cet éditeur, les Arènes, qui n'a pas du tout habitué son public à ce type d'ouvrage et qui refuse d'ailleurs, je tiens à le signaler, de s'exprimer sur ce choix éditorial. Pour Xavier Demarchi, la profession ne peut pas se contenter de survivre grâce à un coût éditorial comme celui-ci.
Ils ont effectivement un fonds intéressant. Ils sont l'auteur d'une revue qui était remarquable, qui s'appelait 21. Moi, j'arrive pas à comprendre, à part dire que c'est un coup de fric. La situation est mauvaise pour les éditeurs en général et les librairies, c'est sûr. Est-ce qu'on va sombrer comme ça dans le coût d'édition et le coût d'argent pour essayer de s'en sortir? Je pense que c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Je crois qu'au contraire, il faut faire un travail de fond, un vrai travail auprès des lecteurs. Ça, si ce livre peut nous permettre d'essayer de rediscuter ensemble et de revoir les problèmes du livre, j'en suis heureux, mais où les gens seront s'ils ne veulent que acheter des livres de Caniveau?
Caniveau ou pas, le livre de toute façon est déjà épuisé. En tout cas, là encore, le libraire refuse de parler. Il serait en cours de réimpression. En attendant, face à la pénurie, il se vend comme des petits pains sur eBay jusqu'à 150 €. Une somme hallucinante pour un livre qui n'a même pas 5 jours.
Et on poursuit tout de suite avec les brèves, Zoé.
Et l'on ouvre avec la mort ce lundi à 58 ans du journaliste Roger Hawke, collaborateur de La Croix ou encore de RTL. Il a été pris en otage pendant plus d'un an au Liban en 1987 par le Hezbollah. Il s'est ensuite lancé dans la politique et avait adhéré à l'UMP avant de devenir ambassadeur de France en Érythrée.
La BNF lance une offre de livres numériques.
Et oui, une cinquantaine d'ouvrages de référence tombés dans le domaine public sont déjà disponibles ce lundi sur e-book dans une version éditoriale de très haute qualité. À terme, la BNF veut proposer à la lecture près de 4000 ouvrages.
Et la Voix du Nord prend un coup de jeune.
Le quotidien passe dès ce mardi à une nouvelle formule papier qui se veut plus claire, plus incisive, plus hiérarchisée. Le but, enrayer le déclin de ses ventes et garder ses quelques 250 000 lecteurs quotidiens.
Et la dernière.
Alors c'est une histoire où l'on apprend que l'un de nos héros d'enfance, en plus d'être un alcoolique notoire, était aussi cocaïnomane. J'ai nommé le capitaine Haddock, car l'une des nouveautés de la rentrée littéraire côté BD, c'est la sortie de La Malédiction de Raskar Rapak tome 2. C'est en fait la version intégrale de Tintin au Temple du Soleil, un album culte, j'en suis sûre, pour vous aussi, Laurent, que Hergé avait publié en fait sous forme de feuilleton dans la presse belge entre 43 et 48 et qui avait été largement amputé lors de sa parution chez Casterman parce qu'il était trop long d'abord, mais aussi parce qu'Hergé était parti dans des tripes assez allumées. Parmi les épisodes coupés au montage, le sauvetage du professeur Tournesol grâce à une éclipse lunaire provoquée par des incantations de Tintin. Mais surtout, on découvre avec délice comment le capitaine Haddock, épuisé par le rythme effréné de son camarade qui est toujours asexué, soit dit en passant, s'évanouit dans la cordillère des Andes et comment un Indien lui fait découvrir une mixture étrange. C'est la coca, nous mâcher coca et nous jamais fatigués, lui dit l'Indien. Et l'on se doute que le capitaine qui vend à longueur d'album Les Vérites du Rhum a été absolument séduit.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Paul Amar et Eric Zonka? Paul Amar,
le livre de Valérité, vous dites d'ailleurs très précisément et très professionnellement que le débat divise les éditeurs et les libraires, mais il divise aussi les journalistes.
Ah oui.
Moi, j'ai appris mon métier sur les bancs de l'université. Je l'ai exercé, vous l'avez rappelé tout à l'heure, sur des champs de mines, des champs de guerre ou dans l'hémicycle parisien. Et là, je découvre qu'on ne peut que l'exercer dans les chambres à coucher. Je trouve ça déplorable.
Très bien. Eric Zonka.
C'est dramatique, c'est un peu pathétique, mais en même temps, c'est toujours de la matière, quoi. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'on arrive aujourd'hui à pénétrer, à avoir accès à des choses qui étaient absolument... impossible à approcher. Enfin, moi, je ne suis pas du tout dans le monde politique. Qui était impossible à approcher. Donc, c'est tentant de le lire. C'est très tentant de le lire. Ne serait-ce que aussi par... alors, parce qu'on imagine qu'on va pouvoir apprendre des choses, voir comment ces gens-là se comportent dans l'intimité, comment ils parlent de nous, comment, etc. Mais aussi comment des gens comme Valérité écrit aussi, s'expose même d'une façon assez pitoyable. Donc, comme dirait Todd Solondz, qui est un grand réalisateur américain, m'avait dit un jour, tout est matière. Donc, curiosité aussi, malgré tout. Quoi.
Palamar, vous restez sur votre position.
Ah, complètement, à supposer d'abord qu'elle dise vrai.
France 2 a refusé d'en parler. Le JT de France 2 a décidé de faire l'impasse sur ce livre et a décidé de ne pas le traiter. David Pujadas l'a dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous auriez fait ça, vous?
Probablement.
Ah oui, à ce point-là?
Oui, oui. Oui, oui. Écoutez, on a assez critiqué Nicolas Sarkozy, qui mettait sans arrêt en avant sa vie privée. Moi, je me souviens d'une conférence de presse à l'Élysée où il avait montré sa main avec la bague au dos en disant « Avec Carla, c'est du sérieux ». Enfin, donc, il annonçait un prochain mariage et on avait tous critiqué assez sévèrement ce comportement et à juste titre. Et d'ailleurs, je comprends que François Hollande ne veuille pas en parler parce que je trouve ça dégradant. Dégradant pour la fonction présidentielle que Valérie T règle des comptes, qu'elle le fasse en direct avec lui, mais on n'a pas à être témoin de ce qui se passait par, pour reprendre l'expression, dans la chambre à coucher de monsieur et madame.
19h20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau déserteur avec vous, Éric Zonka, réalisateur. On vous a plus que remarqué à la fin des années 90 avec La vie rêvée des anges, César du meilleur film. Plus récemment, c'était Julia. Et Canal Plus diffuse ce soir même votre nouveau film, Soldat blanc, centré sur la guerre d'Indochine. On y suit le parcours de deux engagés, Robert et André. Ils ont été engagés en 1945 pour une mission de pacification dans la campagne vietnamienne. Et ils se retrouvent au fur et à mesure chargés de défendre la politique coloniale française et donc de combattre le Viet Minh. L'un va assumer le choix de ses supérieurs, le second doute au point de déserter et va devenir un soldat blanc, bande-annonce.
On terrorise et on nettoie chez les civils. C'est là que se plante le Viet Minh.
Déserteur ! Français, Ho Chi Minh !
Soldat blanc, la propagande Viet Minh s'en sert déjà comme un exemple pour inciter à la désertion.
On fonce en une Viet, on règle ça tout seul, je me fous de la hiérarchie.
La vérité, c'est que la France mène ici une sale guerre ! Voilà la vérité !
Éric Zonka, j'ai pu lire que vous connaissiez très peu l'histoire de la guerre d'Indochine avant de faire ce film. Qui avez-vous rencontré pour vous documenter ? Qui vous a transmis en fait cette histoire ?
Alors, je connaissais très peu cette guerre, comme beaucoup de gens, en fait. Et donc, je me suis documenté, puisque des gens qui restent vivants, il y en a très peu. Je me suis documenté, mais disons que mon premier petit déclic, ça a été quand même mon père, qui lui a fait la guerre d'Algérie, qui n'en a jamais parlé. Et quand je lui ai dit que je faisais la guerre d'Indochine, un sujet qui traitait de la guerre d'Indochine, qui s'est mis à parler à 80 ans, qui était jeune lieutenant à la guerre d'Algérie, et il s'est mis à parler, il s'est mis à pleurer. Et donc, il m'a dit des choses qui sont dans le film d'ailleurs. J'en ai profité pour les mettre dans le film parce que je trouvais qu'elles étaient d'abord, que c'était très 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 déroutant.
Par exemple, qu'est-ce qui vous a marqué au point d'intégrer par exemple, ce que
quand,
votre père
quand
vous a
il interdit à ses soldats, quand le lieutenant interdit à ses soldats de violer une femme, et qui dit voilà, et il y a ces deux types, c'est des paysans. Est-ce que c'est des Viet Minh ou pas? Ils savent pas vraiment. Est-ce que c'est des paysans qui sont proches des... où il y a un caporal qui vient lui dire ils doivent les fusiller, qui vient lui dire est-ce que je peux m'en occuper, mon lieutenant? J'ai jamais tué un homme. Je voudrais savoir comment ça fait. Il y a eu des choses encore plus violentes qu'il a rencontrées, il m'en a parlé, et il pleurait, et depuis, ça l'a traumatisé. Or, dans les témoignages que j'ai vu beaucoup d'hommes qui pleuraient pendant qu'ils témoignaient des années après. Donc, quelque chose qui n'a pas été réglé chez eux, et que la société n'a pas voulu régler. Et puis, beaucoup de témoignages écrits de gens qui sont passés de l'autre côté, alors, comme Clavier, etc., qui sont passés de l'autre côté et qui, sans pouvoir revenir en arrière, une fois qu'ils étaient passés de l'autre côté, c'était plus possible. Et puis des témoignages aussi comme Van der Berg, qui était un adjudant. Mon personnage de Robert Tual s'inspire de cet adjudant qui a créé un intrépide, courageux, qui a créé avec, en allant chercher dans sa compagnie, en allant chercher des Viet Minh prisonniers et en les retournant, il y a juste l'encadrement, les officiers qui étaient français, tout le reste 200 hommes qui étaient Viet Minh retournés et qui allaient faire la guerre, un commando spécial qui allait faire la guerre de l'autre côté des frontières. Et alors ça donne des témoignages incroyables, moi je connaissais peu le monde de l'armée, enfin comme tout le monde. Et puis on est absolument surpris du courage et de la férocité aussi, et de la violence, et comment ces gens-là aussi peuvent déraper. Même le personnage qui passe de l'autre côté est rattrapé par ce qui se passe du côté vietminé. Et lui aussi doit mettre les mains dans la violence pour gagner cette guerre. Lui pour la paix, l'autre pour gagner la bataille.
Paul Amar, une réaction, vous qui avez été correspondant de guerre, justement.
J'ai subi la guerre en Algérie, les attentats, les foules hurlants. Moi-même, j'étais blessé lors d'un attentat. Donc, j'ai connu, sans comprendre, les atrocités de la guerre enfant. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, peut-être même inconsciente, j'ai voulu couvrir une guerre au moment où j'ai été en âge d'exercer mon métier, et donc au Cambodge.
Pour Radio France, hein.
Pour France Inter, absolument. Radio France, et pendant 2 ans, j'étais au Cambodge pour couvrir cette guerre et j'ai écouté attentivement Éric Jonca et j'ai subi enfant les atrocités de la guerre, j'ai observé adulte, jeune adulte, les atrocités de la guerre qui sont évidemment des deux côtés systématiquement.
Et c'est cette méconnaissance de là où on va, dont vous avez parlé, cette méconnaissance de la situation où on pose les pieds et cette découverte comme ça, alors qu'on y va à la fleur au canon, en croyant, juste après la libération, donc après la Deuxième Guerre mondiale, avec les valeurs démocratiques qui ont gagné, on croit qu'on va libérer l'Indochine, comme on croyait qu'on allait libérer l'Algérie, des envahisseurs japonais ou des... Et on s'aperçoit sur place que les choses... Et donc, toute prise de conscience, et après... mais j'ai même discuté, moi, avec un sniper qui est parti en Afghanistan et qui m'a dit, à un moment donné, je me suis dit, je vais passer de l'autre côté. On est les envahisseurs. Alors, je pense que quand on est dans la situation, on voit les choses très, très différemment. Et la violence qu'on fait en tant que... Alors, en Afghanistan, c'est encore un autre problème. Mais pour qu'un sniper me dise ça... il était un de nos conseillers
sur le film,
pour qu'il me dise, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est moi l'envahisseur. Donc on doit vivre cette situation d'une façon très, 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 très particulière.
Alors au départ, Eric Jonca, ce film est un projet de producteur, Georges Campana, qui est spécialisé dans les films d'histoire immédiate, des rapports entre la France et le reste du monde. Alors il y a eu un film sur le Moyen-Orient, L'Infiltré, en Bosnie, Résolution 819. Et pour Campana, le film 317e section de Pierre Schanderfer a été à l'origine de sa prise de conscience sur l'absurdité militaire. Est-ce que vous avez échangé avec lui autour de ce film? Parce que je crois que c'est un film qui aussi vous a marqué, Eric Jonca.
C'est un vrai film de cinéma. C'est un film avec une sobriété incroyable et en même temps qui nous embarque dans l'époque, dans le pays, avec ses hommes. C'est un film magnifique, une poésie incroyable, une poésie de la guerre. Non, un très très beau film. Alors effectivement, quand on voit des films comme ça, on se dit bon, pourquoi en rajouter une couche? Parce qu'il parle très très bien. D'ailleurs, il n'y a aucun point de vue vietmine qui est défendu dans ce film-là. On reste français, alors ça c'était le réalisateur Schanderfer. On reste français, on parle de soi, on parle de son pays, on est très patriotique. Moi, dans le film, je place mes personnages un peu plus en porte-à-faux par rapport aux états-majors, par rapport aux politiques, par rapport. Ils commencent à comprendre qu'on les a. On les a manipulés, on les a lancés dans une sale guerre. Voilà. Et puis, aujourd'hui, on filme plus rapidement, malheureusement d'ailleurs, mais bon, plus rapidement qu'à l'époque de la 317e section. On avait beaucoup plus le temps d'avoir des plans. Alors aujourd'hui, on est plus... et là, je voulais un film d'action. Puisque c'était la télé, je voulais un film d'action. On est dans des budgets limités. Hein, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est dans des budgets limités. Je ne voulais pas un film où ça parle autant. Ça parle quand même pas mal. Mais je voulais quand même un film qui soit emporté, qui soit porté par des avions, et on comprenne...
32 jours de tournage, hein, c'est peu, hein.
Très très peu, ouais. Pour un film de 2h30, je peux vous dire que j'ai maigri.
À propos des conditions de tournage, vous dites que vous êtes habitué à tourner beaucoup de prises en provoquant des accidents. C'est-à-dire, et par exemple, dans ce film...
Par exemple, la première prise, c'est toujours une prise où il y a eu peu de répétitions. Par contre, en amont, on parle beaucoup des personnages. Mais la première prise, en fait, c'est la répète. Or, qu'est-ce qui se passe quand on filme une répète? Ben, il y a des tas d'accidents parce qu'on s'aperçoit que on s'est pas bien compris. Et cette incompréhension génère des fois des perles, des choses qui...
Que vous gardez.
Qu'on garde, ouais. Et plus, plus ça va. Alors après, il y a aussi les acteurs. Par exemple, Émile Berling a besoin de beaucoup de prises. Alors que Abraham Bélaga, c'est tous les deux sont des acteurs vraiment formidables, hein, avec qui Abraham Bélaga, c'est beaucoup plus tout de suite. Donc des accidents avec Émile, moins qu'avec Abraham ouais. Bélaga qui propose, etc. Mais Émile monte en puissance au fur et à mesure. Donc ouais, les accidents sont toujours, toujours les bienvenus.
Benoît, alors vous avez revu la 317e section, mais aussi Apocalypse Now, vous citez Platoon d'Oliver Stone, La Ligne Rouge de Terrence Malick, un de vos films préférés. Qu'est-ce que vous y avez vu dans ces films-là avant de tourner Soldat Blanc ?
Alors déjà, j'étais déçu par Apocalypse Now, qui était un film qui m'avait emballé, et puis j'ai été déçu. Bon, alors il y a des choses magnifiques, hein, mais j'étais déçu.
Vous savez pourquoi ? Déçu par quoi ?
Ouais, je trouve que c'est un film qui est beaucoup moins bien mené que ce que j'imaginais à l'époque. Alors là, on va me tuer quand je vais sortir du...
On va passer par une autre porte.
Quand je vais dans mon café, dans mon bar où je vais tous les soirs, ils vont me massacrer. Pourtant, j'adore Coppola, hein, c'est pas le problème. Et puis, je trouve le film quand même fantastique. Mais j'étais quand même un peu déçu. Platoon, j'aime pas du tout. Bon, j'ai jamais aimé. Par contre, Terrence Malick reste pour moi... Alors, le film La Ligne Rouge, ou l'œuvre de Terrence Malick d'ailleurs... C'est vraiment...
Il y a même un clin d'œil dans le film.
Oui, un clin d'œil. Ouais. C'est vraiment... Comme dans Julia, il y avait un clin d'œil à Cassavetes. C'est vraiment un regard sur la guerre. Alors là, bon, on est dans des moyens, dans des temps de tournage, dans des... on peut pas... Bon, c'est difficile de concurrencer ça. Mais c'est magnifique. C'est à la fois violent, poétique, très humain, spirituel. C'est très, très fort. Non, c'est très, très beau.
Palamar, vous regardez des films de guerre ?
Oui, je regarde des films de guerre et ayant vécu aux États-Unis, je m'intéresse beaucoup au cinéma américain et je note d'ailleurs, et bravo Eric Zonka, mais on a mis du temps, nous, à avoir ce regard lucide sur nos guerres. Et les Américains, en revanche, ont été très lucides, très corrosifs sur leur guerre, et notamment leur guerre au Vietnam. Et le cinéma américain a contribué à avoir une vision plus clairvoyante, en tout cas de la guerre menée par les Américains là-bas.
Comment vous comprenez justement qu'en France, on était plus timide, en tout cas beaucoup plus lent
à
regarder cette histoire-là ?
Il y a des tabous. La guerre d'Algérie, on en parle encore peu aujourd'hui, parce qu'on est complètement inhibé par rapport à ça. Il y a une culpabilité, il y a aussi une proximité avec les pays du Maghreb qui font qu'on ménage les relations, donc on ne touche pas trop à ce passé qui a été extrêmement dérangeant pour les uns et pour les autres. Et je trouve que les cinéastes français n'ont pas eu le culot de leurs collègues américains qui ont été beaucoup plus précoces dans la dénonciation de certaines atrocités.
Et puis, ça fait partie du cinéma américain. Ils savent rendre spectaculaire, donc, notamment Apocalypse Now, hein, où c'est pas les fumigènes, etc. Ils savent rendre spectaculaire, donc le public en est tout de suite friand, leur cinéma. Et quand c'est la guerre, ils savent aussi la rendre spectaculaire, etc. Alors que nous, on a plus difficilement ce rapport avec le cinéma.
Vous-même ?
Ben non, moi j'essaye de
justement
d'être un peu
de la rendre spectaculaire ouais, dans,
tout à fait,
dans les moyens de la télévision.
J'essaye,
en effet,
j'essaye. C'est pas évident, hein, c'est pas facile. Mais eux ont cette espèce de science infuse.
Il y a aussi une fascination pour la violence, hein,
tout à fait,
pour les Américains.
Tout à fait.
Et nous, il y a une répulsion, Dieu merci, pour la violence. Et c'est peut-être pour ça qu'on la répercute pas aussi facilement à l'écran.
Tout à fait. Voir aussi les films sur la mafia, etc., font, et que nous, on a du mal à faire. Parce qu'eux le font d'une façon très forte, très authentique, très, etc. Nous, on a du mal à traiter autrement que dans les séries où c'est pas vraiment vrai, où c'est pas vrai. La violence, alors que tout le sud de la France est infesté de mafia.
Vous êtes sûr que vous voulez retourner dans votre café tout à l'heure, entre cette déclaration sur Apocalypse Now.
Et en Corse, dans 5 jours.
Bah alors, c'est
bon, alors on va repartir. Il y a aussi, excusez-moi, mais oui, moi qui Palamar. Aime le sud de la France et qui adore la Corse, il y a aussi des honnêtes gens
qui
dans
sûr,
le sud
heureusement.
Et en Corse.
Hein, bien entendu.
Je tiens à le dire.
Il y en a même plus, voilà. Heureusement. Alors on va revenir aux États-Unis parce que Palamar évoquait son expérience américaine. Vous aussi, vous avez eu une expérience américaine, vous êtes étudiant comédien, vous rêvez de cinéma américain et vous partez vivre à New York. Vous allez être plongeur dans un resto new-yorkais tenu par la mafia. Vous évoquiez la mafia justement. Qu'est-ce qui vous pousse vers les États-Unis, Rick Zonka ?
Oh bah l'amour du cinéma, c'est-à-dire que j'ai été fasciné à la fois par le cinéma allemand et italien, mais bien avant, parce que je suis d'origine italienne, et à la fois, et bien évidemment, par les Italo-Américains qui font du cinéma aux États-Unis, tous. Et un jour, je me fâche avec un copain Et on parlait tous de partir aux États-Unis. Et je vais acheter mon billet, non pas pour... je me fâche avec, au tennis avec un copain. Et puis, je vais acheter mon billet. Et moi, me voilà embarqué pendant plusieurs années aux États-Unis, où effectivement, j'ai fait plongeur. Mais j'ai aussi été marié à une danseuse de la compagnie Merce Cunningham.
Ah, c'est comme ça que vous rentrez en contact avec Merce Cunningham, John Cage, Bob Wilson.
Bob Wilson, etc. C'est grâce à cette rencontre dans la rue avec une jeune femme à l'époque, qui était donc danseuse dans cette compagnie, avec qui je me suis marié à trois mois et un jour de... Parce que voilà, je devenais clandestin. Et donc, j'ai été marié à City Hall, à New York. Si on m'attrapait, si les flics me demandaient mes papiers, j'étais renvoyé pendant 5 ans. Je ne pouvais plus foutre les pieds sur le territoire américain. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai vécu aux États-Unis. Deux serveurs. Heureusement, je suis monté serveur dans les restaurants. Et j'ai côtoyé effectivement pas mal d'artistes, des peintres aussi. Et ça m'a le monde de la danse contemporaine, et ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé. Et ça m'a aussi appris que je voulais faire du cinéma aux États-Unis, qu'il fallait que je revienne en France pour faire du cinéma. Ma culture, elle était là finalement.
Alors, chaque soir, on demande à un invité son. Éric Zonka, voilà ce que vous nous avez apporté.
It has nothing to do with being a woman. Now, you're not a woman anyway. No, you're a beautiful woman. You are. I was kidding. Now, you see, you have no sense of humor. I told you that. It's a tradition. Actresses get slapped. It's a tradition. Oh, I love you.
Identification du son, Éric Zonka, ce qu'on entend.
C'est comme de la musique pour moi. C'est-à-dire, c'est dans Opening Night, quand il est au téléphone.
De
Cassavetes, il est au téléphone et il dit les comédiennes et les comédiens sont faites pour être giflées. C'est hallucinant. Moi, c'est Cassavetes, c'est Piala. Et c'est Cassavetes qui m'ont appris à écrire. Pourquoi ? Parce qu'ils n'écrivent pas comme les autres. Ils sont absolument surprenants. Ils ont un don de la mise en scène qui est fabuleux. Moi, je peux écouter ça pendant des heures comme de la musique.
Vous aviez d'ailleurs travaillé pour le film Julia à la méthode Cassavetes, c'est-à-dire faire un film très long pour couper beaucoup ensuite. Ici, par exemple...
Je le fais même sur Le Soldat
Blanc.
Même
là, parce que le film devait durer 3 heures.
Le film fait 3 heures.
Quel monteur vous êtes, en fait ?
Quel monteur je suis ? Alors, je travaille toujours avec des très bons monteurs. Là, c'est Philippe Kotlarski qui a fait Julia et qui a fait... on regarde. En général, le monteur fait une première mouture et on regarde après. Et finalement, je change. Des fois, on n'est pas du tout d'accord. Mais finalement, je ne change pas beaucoup de choses. J'ai un très, très bon monteur.
Le rendez-vous extérieur.
Éric Zonka, Paul Amor, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine. Ce soir, dans la série Les professionnels de la profession, c'est Vanessa Schneider, grand reporter, journaliste politique, 13 ans à suivre les dossiers de la droite à Libération, puis Le Monde depuis 2011. Elle signe l'édito politique du mercredi sur RTL à 8h15. Elle vient de publier Le jour où tu m'as quitté chez Stock. Questionnaire politique, Vanessa Schneider, Manu Farine.
Le souvenir politique de votre enfance.
L'élection de Mitterrand en 81. J'étais dans une famille de gauche, donc c'était une grande fête. On était allés le soir à la Bastille. Et donc j'imaginais que c'était la fête pour tout le monde. Et je suis retournée le lendemain au collège et je me suis aperçue que c'était pas du tout la fête pour tout le monde. Et que j'avais compris que tout le monde ne vivait pas dans le même monde que le mien.
Une figure qui a pu fonctionner comme référence pour vous ?
C'était un grand journaliste de Libération qui s'appelait Gilles Bresson, qui m'a pris sous son aile, qui avait un rapport très ludique à la politique, à l'écriture, et qui m'a appris à regarder ce monde-là comme un théâtre avec des personnages, avec des rebondissements, avec des situations, avec d'observer ça comme une comédie humaine.
Première erreur de journaliste.
À Libé, comme notre rôle, c'était à la fois de taper sur la droite et qu'en plus, on cultivait un ton comme ça, très caustique, très moqueur, qui faisait partie de la culture du journal et c'est la façon dont j'avais appris à écrire. Je pense qu'il y a certains papiers que j'ai faits où le trait était un peu forcé et c'est vrai que moi, j'avais par exemple à cette époque-là le surnom de Madame Tape Dure par les politiques, qui m'embêtait pas outre mesure parce que au moins je revendiquais d'avoir une distance et un regard critique, mais avec le temps, je pense que j'ai adouci mon regard en faisant plus attention. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris à modifier avec le temps.
En 20 ans, ce qui a changé dans l'exercice de votre métier ?
L'accélération du temps médiatique et du temps politique. Moi, j'ai commencé à une époque où on allait à l'Assemblée nationale, il y avait quelques journalistes de presse écrite et 3 caméras de télévision. On pouvait passer plus de temps à discuter. Maintenant, ce sont des choses qui sont extrêmement compliquées à faire parce qu'on se retrouve pris dans des meutes de caméras, de téléphones qui filment tout, de blogueurs. Donc je pense que ça a modifié la façon d'être des politiques qui sont sommés de réagir beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est-à-dire avant, il y avait un événement politique, l'homme politique pouvait se dire « bon, je vais faire un communiqué dans 5 heures ou dans 6 heures, ou j'en parlerai demain ou après-demain, maintenant c'est plus possible. »
L'événement que vous avez aimé couvrir ?
J'avais couvert à Lyon l'histoire des conseils régionaux qui avaient fait alliance avec le Front National, et donc notamment le Charles Mignon à l'époque, de droite, qui avait fait alliance avec Bruno Gollnisch du Front National, plus d'une semaine à couvrir quotidiennement cette alliance, et c'est un des souvenirs les plus forts que j'ai, avec des tractations jour et nuit, où les types picolaient au fil des heures et buvaient de plus en plus, passaient leur temps entre la buvette, les négociations dans les bureaux, donc il y avait plein de choses à raconter.
L'homme politique ou la femme politique qui vous aura le plus appris sur votre métier ?
Nicolas Sarkozy, parce que Nicolas Sarkozy, il pose aux journalistes un problème essentiel qui est celui de la distance qu'on doit mettre par rapport aux politiques. C'est-à-dire qu'eux font leur métier. Quand ils sont en face de nous, leur but est de nous vendre ce qu'ils ont à nous vendre, hein, leurs idées, leurs sauces, leurs stratégies, leurs mensonges, leurs vérités aussi. Et nous, notre rôle, c'est de décrypter tout ce qu'ils ne veulent pas nous dire. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy, de par cette espèce d'état de séduction permanente dans laquelle il est avec la presse, nous confronte vraiment à ça, se poser toujours la question de qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de me vendre.
L'autre métier que vous auriez pu faire ?
Je sais que je n'aurais jamais pu faire, c'est femme politique.
Vanessa Schneider, merci.
Des réactions, Paul Amar, est-ce que vous venez d'entendre ? Est-ce que ça fait écho à votre propre
D'abord, parcours ? Je ne suis pas surpris. Vanessa Schneider est une excellente journaliste, caustique, précise. Et ce qu'elle raconte de ses relations ou de nos relations avec les hommes politiques ne me surprend pas. Ce qu'elle dit de Nicolas Sarkozy ne m'étonne pas. Et c'est bien parce qu'elle a su, tout au long de ces années passées, garder toujours cette distance. Et donc, bravo, voilà. Pour les journalistes de télévision, c'est parfois plus difficile parce que la séduction est beaucoup plus forte et le rapport de séduction peut être beaucoup plus perturbant et plus dangereux pour le journaliste, alors que le journaliste de presse écrite, lui, arrive quand même à se protéger.
Elle parle d'un journaliste qui a été décisif dans son parcours, qu'il a pris sous son aile, qui lui a appris d'une façon à écrire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre propre parcours qui a eu ce rôle pour vous, Paul Amar ? Une personne de référence ?
Avant même de rencontrer des journalistes professionnels, ceux qui m'ont le plus marqué sont mes profs du centre de formation des journalistes, et notamment Philippe Vianney et Claire Richer, qui avaient fait la résistance et qui, parce que le journalisme a été très dégradé pendant la guerre, on redonnait des lettres de noblesse au journalisme. J'étais marqué par l'enseignement de mes profs, marqué évidemment, je ne vais pas vous surprendre, mais par les lectures de Camus. Je pense que
Dans le livre, c'est flagrant.
Oui, mais c'est Camus, revenir, ouais. C'est Camus qui m'a poussé vers le journalisme, clairement, mais aussi des hommes comme Kessel, mais aussi des hommes comme Kerouac, le désir de voyager, d'aller voir ailleurs. Donc, ce sont mes lectures qui m'ont poussé vers le journalisme, et je n'avais pas du tout prévu, mais alors pas du tout, d'entrer dans l'audiovisuel. Moi, ce que je voulais, c'est entrer au monde à la sortie de mes études. Et donc, voilà, le destin en a décidé, et les rencontres en ont décidé autrement.
Plateau revu et corrigé ou recto verso avec vous, Paul Amar, journaliste et producteur, longtemps présentateur des journaux télévisés de France 2, animateur d'émissions de débats politiques ou de société, je pense à Un Monde, à l'autre, ou États généraux, de magazines de décryptage de l'actualité, c'était revu et corrigé, mais aussi de magazines culturels sur Paris Première, recto verso. Vous signez Blessures aux éditions Talendier, un livre dans lequel vous revenez sur votre parcours de votre enfance en Algérie jusqu'aux diverses expériences télévisuelles avec comme fil conducteur, et c'est ça qui est intéressant, une enquête très personnelle sur la montée du racisme et de l'antisémitisme en France, en particulier depuis les années 80. Vous écrivez d'ailleurs que dans les années 70, je vous cite, la question juive ne hante plus grand monde en Amérique comme en Europe. Et on comprend en fait que ce sont trois faits divers récents qui sont à l'origine de votre réflexion pour ce livre. L'affaire Meira de Toulouse, l'affaire Ilan Halimi et le statut de Dieudonné. Qu'est-ce qui se joue là précisément pour que vous passiez à l'acte aujourd'hui, pour que vous passiez du côté de l'écriture?
D'abord, je n'ai plus d'émission, donc je l'ai écrit en homme libre. Je ne l'aurais pas publié si j'avais continué de présenter une émission, parce que c'est un petit peu délicat. Il y a eu deux moments clés. Le titre initial d'ailleurs de ce livre que j'avais proposé, c'était « Le trouble ». L'éditeur m'a proposé « Blessure », un titre plus fort que j'ai finalement accepté. Et ce trouble, je l'ai ressenti d'abord au début des années 80, quand Le Pen est apparu, et moi je dis réapparu, parce que les jeunes ont pensé que c'était un homme nouveau, alors que c'était un homme de la 4e République, et quand Dieudonné a surgi. Et voilà, il y a eu deux moments clés dans mon cheminement qui m'ont profondément perturbé. Et vous avez raison de dire que j'ai, au fond, proposé une enquête dans ce livre. Et c'est la première fois en 40 ans de métier que je parle de moi, mais en tenant un propos politique, évidemment. Je ne parle pas de ma vie intime. Et j'aurais pu. En tenant toujours ce propos politique, j'aurais pu. Pourquoi ce trouble? Tout simplement parce que ces blessures, qui sont des blessures de l'enfance, où j'étais confronté à un double antisémitisme, celui de Pétain, là j'étais pas né, mais mon père m'a raconté ensuite, mon père fonctionnaire qui perd son emploi en Algérie, mes grandes sœurs, je ne suis pas encore né, qui sont virées de l'école et du collège, tout simplement parce qu'il est juif ou parce qu'elles sont juives, alors que nous étions français, nés français en Algérie. Et l'autre antisémitisme que je subis personnellement quand je vais à l'école, on me lance des cailloux, on m'insulte, on me crache dessus, et ce sont des petits Algériens qui me disent « sale français, sale juif, retourne chez toi ». Je ne comprenais pas parce que j'étais chez moi, né en Algérie. Et donc ces blessures de l'enfance sont complètement cicatrisées à mon arrivée sur le continent, en tout cas en France, à Villeurbanne. Et là, après une enfance africaine douloureuse, je passe une enfance européenne magnifique, ce que j'appelle des années bonheur, mais magnifique, où il y a des petits Italiens. D'ailleurs, notre voisine est une mama italienne. Elle apprend à ma mère à faire les pâtes et les pizzas. Ma mère lui apprend à faire le couscous. Il y a des Portugais. Il y a toute cette vague d'immigration venue d'Italie, du Portugal, d'Espagne. Ce sont mes copains au collège ou mes copines, peu importe. Et là, je passe des années magnifiques, adolescence et à 20 ans, j'oublie. Je finis par oublier que je suis juif. Dans ma vie personnelle, dans ma vie intime, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, quand je suis journaliste, je ne demande pas à faire des questions religieuses. Je ne demande même pas à être correspondant au Proche-Orient. J'oublie que je suis juif. Et tout d'un coup, un homme va apparaître, réapparaître, qui s'appelle Le Pen, et qui tout d'un coup va attaquer des juifs. Je dirige à ce moment-là le service politique, et je me fais attaquer régulièrement par minute, dirigé d'ailleurs à l'époque par Patrick Buisson, régulièrement, non pas parce que, contre ce que je dis à l'antenne, contre ce que j'écris, mais contre ce que je suis. Et donc, il s'attaque à mon être et à ma propre identité. Je ne dis rien pendant des années et des années, jusqu'au moment où Dieudonné apparaît ou réapparaît et nommément me cite dans ses spectacles, comme il cite Patrick Cohen, comme il cite Patrick Bruel, et ce que j'appelle le mur des fusillés. Voilà, avec les mots, bien sûr. Mais c'est son mur des fusillés à lui. Et donc, le trouble est si fort que, zut, je me mets à parler et je me mets à dénoncer ce retour à l'antisémitisme. J'ai fait une enquête sur ce mystère et je vais être honnête avec vous, j'ai échoué dans mon enquête.
Oui, parce ça que finit sur des conditionnels passés.
Mais oui, parce que je ne comprends toujours pas.
Le livre était fait pour comprendre et en effet, on arrive à la fin du livre et vous ne comprenez pas.
Autrement dit, quand je propose, et c'est mon parcours de journaliste qui m'a incité à le faire, une lecture politique de la résurgence de l'antisémitisme, ben, j'échoue. Et donc, sauf à mettre sur le compte de la folie, tout simplement, les comportements de tel ou tel, la seule piste qui me restait, c'est une piste clinique. Et quand je prends une piste politique, un chemin politique, j'échoue dans la tentative d'explication de ce retour de l'antisémitisme.
Benoît Lagane.
Alors, à propos de Jean-Marie Le Pen, vous évoquez à plusieurs reprises dans votre livre sa haine envers Simone Veil. Et on a retrouvé à ce sujet une archive que vous évoquez dans votre livre. Nous sommes rue Le Pic, en 1979, extrait.
Dure fin de campagne pour Simone Veil. Hier soir, elle n'a guère pu parler de l'Europe. Les deux réunions débat qu'elle devait tenir à Paris ont en effet été perturbées par des commandos d'extrême droite du Front National de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui était là en personne rue Le Pic où les incidents ont été les plus violents.
J'ai survécu à pire que vous. Vous n'êtes que des SS au petit pied.
Après, tout a dégénéré, la bagarre est devenue générale, les chaises et les poings ont volé bas, les militants du Front National se sont déchaînés, poussant des hurlements, lançant des œufs pourris, des bombes lacrymogènes et fumigènes.
Et cinq ans plus tard, donc en 1984, quand Simone Veil n'est plus au pouvoir, Jean-Marie Le Pen déclare dans l'heure de vérité avoir le droit de ne pas aimer Simone Veil. À cette époque, vous dirigez le service politique d'Antenne 2. Paul Amar, vous vous souvenez de votre réaction à ce moment-là ?
Oui, très très bien. Et d'ailleurs, il ajoute, dans la même phrase, « j'ai le droit de ne pas aimer » alors que la question ne lui était pas posée. Il répond à une question qui ne lui est pas posée. Et il dit, on est en 1984, et il dit « j'ai le droit de ne pas aimer Simone Veil, Chagall et Mendès France ». Et là, je regarde l'heure de vérité, je suis chez moi. Et voilà, le trouble commence. Les années 60, les années 70, jusqu'au début des années 80, les débats portaient sur les questions économiques. Vanessa Schneider évoquait tout à l'heure la victoire de François Mitterrand. Sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur les questions idéologiques. Le Parti communiste, il existe dans votre film, Éric Zonka, était très puissant. Et c'était des débats idéologiques. Et tout d'un coup, la question raciale réapparaît par la volonté d'un seul homme, Jean-Marie Le Pen, qui va finir par polluer le débat politique, par empoisonner le débat politique. À l'époque, je suis d'ailleurs très minoritaire à l'époque, parmi les journalistes, et je dis attention, attention, il faut tirer les enseignements de l'histoire. C'est dangereux ce qu'on est en train de faire. On joue avec le feu à inviter trop souvent Jean-Marie Le Pen, mais je suis minoritaire et je ne suis pas entendu.
Vous l'êtes presque quand même, parce que quand vous acceptez par exemple de prendre la direction du 20h de France 2, vous expliquez vos conditions à Hervé Bourges, ne pas à avoir interviewé Jean-Marie Le Pen. Quels étaient vos arguments et est-ce qu'il vous a entendu ?
Il était très surpris, parce que je présentais à l'époque le 19-20 et j'avais demandé la même chose à Philippe Guillaume, qui dirigeait à l'époque le groupe, et Dominique Alvi, qui était ma directrice générale à France 3, et ils avaient accepté. Et Hervé Bourges, j'étais très surpris. Alors, il m'avait demandé aussi d'animer les soirées électorales, de nouveau. Et je lui avais dit que pour les soirées électorales, aucun problème. Aucun, parce qu'on est dans une logique démocratique. Le Front National accepte cette logique. Il est entouré d'interlocuteurs, et il y a d'autres débatteurs. Donc, moi, je fais médiateur, il n'y a aucun problème. Mais le face-à-face... pervers avec Jean-Marie Le Pen, qui a forcément toujours le dernier mot, qui se joue de vous, là, c'est dangereux. Et dans mon cas, très personnel, Pujadas, lui, n'aurait pas ce problème. Et d'ailleurs, à l'époque, Bruno Mazur n'a pas eu ce problème du tout. Il n'avait aucun état d'âme. Mais moi, j'étais insulté régulièrement par minute. Et donc, j'avais peur de fragiliser, en quelque sorte, le 20h si j'avais eu une attaque personnelle contre moi de la part de Jean-Marie Le Pen, comme c'était le cas dans Minute régulièrement. Donc, je lui avais demandé, il l'avait compris. Et comme je présentais le 20h en alternance avec Bruno Mazur, ça n'a posé aucun problème. Quand Jean-Marie Le Pen venait, c'est Bruno Mazur qui l'interviewait.
Éric Zonka, vous comprenez ces prises de position ?
Ben oui, tout à fait, parce que moi et ma famille, quand on regardait l'extrême droite, on ne comprenait pas comment il pouvait avoir un droit de parole à la télévision ou à la radio. C'était quelque chose d'insupportable pour nous. Donc je comprends tout à fait Paul Amar. Et quand petit à petit ils sont installés... ils sont apparus à l'image. Ça a été un vrai choc pour moi. Ça a été un vrai choc parce que je n'étais pas du tout élevé dans cette culture-là, quoi. Et il a fallu qu'ils se déguisent, qu'ils prennent des... qu'ils revêtent d'autres habits, etc. Mais c'est toujours assez étonnant pour moi de voir Marine Le Pen à l'image, quoi. Et de la voir comme ça dans les médias. Voilà, je viens de là...
Alors Hervé Bourges était compréhensif, Jean-Pierre Elkabbach beaucoup moins. Il vous imposera en 1994 l'animation du fameux débat Jean-Marie Le Pen-Bernard Tapie au fameux gant de boxe. Vous vous y opposez, mais comment vous retrouvez alors à animer ce débat ?
Parce que en fait, j'avais démissionné. Et Elkabbach n'attendait que ça, pour être clair. Il avait été nommé au début de l'année 1994 et il nous imposait des ministres quasiment chaque soir. Voilà, on va être clair. C'était Balladur qui était Premier ministre à l'époque et c'était insupportable. Et donc on régressait de ce point de vue, du point de vue du fonctionnement démocratique de nos rédactions. Et la rédaction me soutenait et Elkabbach avait trouvé la faille. Et donc il m'impose ce fameux débat Tapie-Le Pen, je refuse et je démissionne. Et Elkabbach me dit, il attendait en fait, ok, voilà. Et là, Assemblée Générale de la rédaction, le jour même du débat d'ailleurs, hein, il y avait quand même 200 journalistes, toutes sensibilités confondues, qui m'ont demandé de rester, qui m'ont demandé, pour être un peu vulgaire, d'avaler la couleuvre, parce qu'ils me disaient, surtout les jeunes confrères, on a compris le fonctionnement d'Elkabbach, on a besoin de toi pour l'élection présidentielle. Toi seul, tu en connais tous les ressorts, tu peux lui résister. Et j'ai obéi à cette pression bienveillante de la part de la rédaction, mais au fond, à contre-cœur. Voilà. Et je m'étais renseigné auparavant sur ce débat. Et j'avais appris par des sources extrêmement fiables qu'ils allaient peut-être en venir aux mains. Ils avaient besoin l'un et l'autre de ce débat. Jean-Marie Le Pen était dépassé par Philippe Delillier à l'époque, donc il devenait un peu ringard. Quant à Bernard Tapie, il passait de la chronique politique à la chronique judiciaire. Donc j'avais très peur d'un pugilat. Et les téléspectateurs pensent que c'est le présentateur qui invite. Et donc voilà, j'ai utilisé un outil très spécial pour rappeler les règles de l'art. Quand on se bat, ça s'appelle des gants de boxe. Moi, j'ai des amis psychiatres ou psychanalystes.
Les psychanalystes qui vont vous dire que cet événement était plus un passage à l'acte qu'un acte manqué.
Le lendemain, j'ai dit acte manqué. Ils m'ont dit non, passage à l'acte. Et au fond, ils avaient raison. J'ai obéi à cette pression bienveillante de la part de la rédaction. Et donc, j'ai animé ce débat. Mais au fond de moi, je ne voulais pas aller à l'élection présidentielle avec Jean-Pierre Lecavache, clairement.
Vous parlez de vos amis psychiatres ou psychanalystes. Tout au long du livre, vous faites souvent référence à Freud. En 1988, vous aviez même écrit un livre intitulé « Freud à l'Élysée ». Quelle place la psychanalyse a-t-elle dans votre vie, Paul Amar?
Comme je n'ai jamais fait d'analyse, c'est peut-être une façon de me soigner. C'est vrai que Freud compte beaucoup dans ma vie. C'est sans doute lié à la guerre, je pense. C'est vrai que je fais souvent des cauchemars, quasiment chaque nuit. Je pense que c'est lié à la guerre, à la violence. Donc l'inconscient joue un rôle considérable. Mais Freud à l'Élysée, c'est un exercice plutôt amusant. Oui. J'ai travaillé d'ailleurs avec Boris Cyrulnik et avec d'autres amis psys, où moi, je leur donnais du matériau et ils m'aidaient à comprendre ce qui me fascine toujours. Vanessa parle de comédie humaine. C'est cette pulsion de pouvoir qui habite les hommes, rarement les femmes d'ailleurs, mais les hommes politiques, on n'est pas très loin de la guerre et de la violence là. Et donc voilà, j'ai utilisé ce chemin-là pour essayer de comprendre cette pulsion.
Benoît. Alors chaque soir, nous demanderons à nos invités de nous soumettre une idée de son. Et en ce qui vous concerne, Paul Amar, vous avez choisi ceci.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, il y a le voyou du jour qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, il y a l'assassin de service qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne.
Identification du sang, Paul Amar.
Barbara, mon grand amour et mon grand regret.
Votre grand regret, c'est exactement ce que vous écrivez dans le texte. Pour quelle raison?
Pour une raison très précise, vous avez cité Recto Verso tout à l'heure.
Ouais, votre pendant émission culturelle.
10 ans, j'ai présenté cette émission culturelle sur Paris Première, où j'ai invité des auteurs, des artistes, des intellectuels. Et désespérément, j'ai tenté de convaincre Barbara de venir. Mais elle s'était déjà enfermée. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis mon grand regret. Parce que je n'ai pas eu l'occasion de la voir face à moi, comme voilà, je suis face à vous aujourd'hui. Et je rêvais de ce moment-là parce que j'ai évoqué les années douleur enfance, mais les années bonheur adolescence. Et à 15 ans, on critique souvent les fans, moi le premier d'ailleurs, parce que je trouve le comportement un peu débile. Mais j'avais 15 ans. J'allais écouter Barbara, c'était à Lyon. Et je suis tombé, mais amoureux. D'ailleurs, je suis allé en coulisses le lui dire. Amoureux d'elle et elle ne m'a jamais quitté. Voilà. Donc, il m'est arrivé de correspondre.
Ah oui?
Oui.
Par fax,
oui.
Comme elle le faisait?
Non, des lettres.
D'accord.
Des lettres. Mais malheureusement, les dernières années, elle avait choisi l'obscurité. Voilà. Et l'enfermement.
Dernière question, Benoît.
Oui, vous citiez tout à l'heure l'émission Recto Verso, où vous entreteniez des tête-à-tête avec des personnalités du monde de la culture. Quelle influence ce type d'exercice va-t-elle avoir finalement sur votre propre introspection aujourd'hui?
Votre question est pertinente parce que je pense que c'est grâce à Recto Verso que j'ai pu écrire ce livre. Quand j'ai quitté Antenne 2, dans les conditions qu'on vient d'évoquer, Cyril Dupeloup et Pascal Joseph, qui le conseillaient, m'ont proposé d'inviter un artiste. Et j'avoue que j'ai marqué mon étonnement. J'ai dit, mais attendez, je viens du journalisme politique. Je viens du journalisme de guerre. Je ne vais pas savoir interviewer un artiste chaque jour pendant une heure. Et j'étais vraiment sincère. J'étais complètement décontenancé. Alors évidemment, j'aimais le cinéma déjà. J'aime lire, voilà, mais comme un bon cinéphile ou comme un bon lecteur. Mais c'est tout. Et donc, j'étais décontenancé. Et Dupelot et Joseph m'ont dit, mais non, justement, c'est ça qui nous intéresse. Et croyez-moi, la rencontre... Alors, quand j'invitais des auteurs, ça allait. Quand c'était Umberto Eco ou Bernard-Henri Lévy, voilà, j'étais dans mon élément, je lisais leurs livres, et voilà. Mais Charlotte Gainsbourg, Vanessa Paradis, Mylène Farmer, là, c'était... Mais croyez-moi, j'étais complètement désorienté. Et voilà, c'était improbable. Et j'ai passé 10 ans avec ces artistes qui m'ont appris des choses essentielles. Moi, je venais du journalisme politique, du journalisme rapport de force. Vanessa disait, il faut garder sa distance. Et j'entrais dans un autre monde, celui de la fragilité, celui de la sensibilité extrême, parfois de l'incapacité à s'exprimer. Parce que les artistes créent quand ils sont peintres, quand ils sont cinéastes. Mais pour autant, il leur est parfois difficile d'expliquer ce qu'ils font. Et donc, parfois, il y avait une relation extrêmement difficile. Et c'était ces moments-là, au fond, que je préférais, quand je sentais l'artiste vaciller dans son expression. Et qu'un jour, Amélie Nothomb m'a dit « Ce serait formidable qu'on se fasse une émission, mais qu'on ne dise rien pendant une heure. » Moi, j'ai dit « Ce serait quand même difficile de tout dire pendant une heure. » Il dit, je finis par oublier que je suis juif. Dans ma vie personnelle, dans ma vie intime, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, j'oublie que je suis juif.
Merci à nos invités. Paul Amar, Blessure, c'est aux éditions Thaïlandier. Eric Zonka, Soldat Blanc est diffusé sur Canal+. Ce soir, ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain...
Il y a un journal de droite qui s'appelle Le Figaro, qui, à mon avis, déconsidère la presse. Il y a de l'autre côté un journal de gauche, Libération. Nous sommes au Monde. Ce que je souhaite, c'est que nous réenchantions l'information.
Demain, vous en rêviez, c'est Le Monde. Le Monde est à nous avec le documentariste Yves Geland. À ses côtés, le réalisateur Nadav Lapide. Des annonces, Hippolyte ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard en partenariat avec À nous Paris, une émission préparée par Benoît Lagan, Adrien Nazelli et Hippolyte Babilotte. Journal de la culture, Zoé Sfez, le questionnaire du lundi, Manou Farine, à la technique, Jacques Hubert, Lucas Vaillant, à la réalisation, Thomas Beau. Vous pouvez télécharger, réécouter, podcaster, commenter cette émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.